Grand reportage est aujourd'hui en Algérie à la veille de la présidentielle aux côtés de la jeunesse algérienne qui représente les deux tiers de la population du pays. Ils sont nés avec les émeutes d'octobre 88 ou quelques années plus tôt. Ils ont grandi avec le terrorisme et aujourd'hui ils rêvent d'avoir un logement et un travail qui correspondent à leur niveau d'études. Peut-on réussir en Algérie? D'où vient cette violence qui éclate dans la rue de plus en plus fréquemment à la moindre étincelle? C'est un grand reportage de Marie-Pierre Olfant. On écoute et on retrouve Marie-Pierre tout de suite après.
Je viens juste de sortir de l'université. Ça fait 2 mois que je travaille dans cette entreprise. Je suis une informaticienne fraîche un petit peu. J'ai commencé à travailler ici. C'est un hasard quoi. Pour l'instant, vraiment, je me sens très bien avec mon équipe et tout. Avec eux, on travaille. Il y a un esprit de groupe. J'aime bien travailler ici.
Ismahan est une jeune Algérienne de 23 ans, avenante et enthousiaste. Elle ne manque pas de projets et incarne, sans le vouloir, cette jeunesse qui s'accroche pour travailler en Algérie. Là où elle habite, à Annaba, près de la frontière tunisienne, vit aussi Zoubir, un jeune de 31 ans. Il est issu d'une famille de 8 enfants, cheveux gominés, sourcils barrés d'une cicatrice. Il nous explique qu'il n'a qu'une seule idée en tête, quitter le pays.
Il n'y a rien ici. On m'a donné rien. Je pense maintenant aussi pour partir là-bas, à la France.
Il n'y a rien ici, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de travail?
Il n'y a pas de travail, je te manque des sous, même pour la faire un diplôme. C'est dire pour nous.
Et est-ce que vous avez beaucoup d'amis qui veulent aussi quitter Annaba?
Oui, il y a beaucoup.
À mi-chemin entre les destins d'Ismahan et de Zoubir, il y a ceux de millions de jeunes que compte l'Algérie. Des jeunes qui se cherchent et qui se battent pour être entendus. C'est presque un réflexe. Quand un jeune Algérien parle de lui, il compare sa vie avec celle qu'il aurait s'il vivait ailleurs. Partir, c'est l'obsession des Haraga, ces clandestins qui franchissent la Méditerranée pour gagner l'Europe, faute d'avoir obtenu un visa. Pas une semaine ou presque ne se passe sans que la presse locale ne rapporte le départ d'une embarcation. Le fils de Kamel Belabed a quitté l'Algérie il y a 2 ans.
Tout simplement, c'était un seigneur. Il ne pouvait pas dire que j'en ai marre d'être enfermé. Il ne voulait pas me poser le problème. Il a cherché son autonomie. C'est un garçon très fier. Et il avait pris sa responsabilité. Il a dépassé l'âge de demander à papa qu'est-ce qu'il doit faire. Et puis voilà, c'est tout.
Ce petit homme à la moustache poivre et sel vit hanté par le sort de son fils. Pour Kamel, la précarité est en grande partie responsable de son malheur.
L'emploi n'existe plus au sens conventionnel. Il y a une institution d'un emploi précaire et la précarité de l'emploi se répercute sur la précarité de la vie et tout ce qui suit. Donc cette instabilité qui perdure un petit peu, elle est aussi pour beaucoup dans le malaise de la jeunesse. C'est-à-dire quand on a dans la vie 25 et 30 ans, quand on ne travaille pas pour une carrière, vous comprenez que bon, le reste n'a pas de sens, hein, on peut agir n'importe comment.
Certains disent que c'est les jeunes qui manquent d'ambition.
Pas du tout. Peut-être que c'est le contraire, ils sont en train de nous donner un cours là. Ils te disent, vous voulez accepter de vivre comme ça, la précarité? Moi je préfère aller tenter ma chance ailleurs.
Depuis 2 ans, Kamel Belabed a un nouvel ami. Lui aussi a perdu la trace de son fils dans des conditions similaires. Saboni Boubacar Sadir a 5 enfants, aucun d'eux ne travaille. Alors pour lui, le chiffre officiel qui donne un taux de chômage de 11%, c'est du mensonge. Ce qu'il voit, c'est la précarité qui s'installe dans sa famille.
Nous sommes vieux maintenant. Qu'est-ce qu'on attend de ce pays? On attend que nos jeunes construisent leur pays, qu'on leur donne un emploi, un logement, un numéro de sécurité sociale. D'ailleurs, j'ai mon plus grand enfant qui est marié. Il est marié, sa femme elle est enceinte. Il n'a pas de numéro de sécurité sociale. Il est en train de se débrouiller à droite et à gauche. Une fois qu'il aura un enfant, comment qu'il va le faire soigner cet enfant?
140 000 diplômés ont terminé leur cursus l'année dernière. Mais aujourd'hui, avoir un diplôme ne garantit rien. Ismahan, la jeune informaticienne, sait que c'est une privilégiée.
Beaucoup de jeunes cherchent du travail, mais ils ne trouvent pas. Ils sont qualifiés, ils ont des diplômes et tout, mais ils sont formés, mais ils ne travaillent pas. Oui, je connais pas mal de gens, ou là, de gens qui ne travaillent pas avec leur diplôme, pas dans leur domaine d'études.
Ils sont obligés de faire autre chose.
Ils sont obligés, ils ne trouvent pas. Je connais même des filles qui travaillent comme vendeuses, qui sont déjà diplômées. Je connais des biologistes, des informaticiens qui travaillent comme secrétaire aussi. Si tu veux vraiment travailler avec ton diplôme ou dans ton domaine, vraiment c'est très rare que tu trouves. Quand même, on n'a pas étudié pendant je ne sais pas combien d'années pour travailler des travaux minables comme ça.
1,5 million de logements auraient été construits ces 10 dernières années selon les autorités. Mais sur le terrain, la situation reste souvent critique, ce qui accélère la perte des valeurs, estime aussi cet habitant d'Alger.
On manque de tout. Il y a des gens qui ont plus de 50 ans qui ne sont pas mariés.
Parce qu'ils n'ont pas de logement, parce que...
Pas de travail et pas de logement.
Et sans ça, on ne peut pas se marier.
Bien sûr. Il y a même en Algérie un fléau qui n'est pas mis sur le champ politique. Mais il y a des femmes qui ont plus de 50 ans et qui ne sont pas mariées. Il y a des femmes qui sortent en retraite à 60 ans et elles ne sont pas mariées.
Et ça, c'est dû à quoi?
C'est dû à tout l'entourage de cette société. Ce que je peux dire, que notre société, elle a perdu toutes ses valeurs. Il n'y a pas de respect envers la femme, il n'y a pas de respect envers la cellule familiale.
Il y en a qui s'y opposent. La tradition est devenue le refuge de certains jeunes Algériens. Dans la communauté mozabite, qui pratique un islam plus conservateur que celui des malékites, les jeunes se doivent de suivre des principes. Azedine a 23 ans, une petite barbe, de grands yeux noirs sur lesquels tombe un bonnet en laine. Après sa licence d'anglais, il a choisi de rentrer à Gardaïa, sa ville natale, dans le sud de l'Algérie.
La vie, pour les mozabites, défense de fumée, 100%. H24, 7 sur 7. No drink.
Pas d'alcool.
Oui, pas d'alcool. Pas de cigarette, pas d'alcool, pas de jeune fille. Pas de sexe. C'est pour ça que je suis seul ici. J'ai l'occasion de ramener les milliards de jeunes filles, mais je peux pas. J'ai des principes, j'ai des limites.
Donc vous attendez de vous marier?
Oui, bien sûr.
Vous avez déjà trouvé votre femme?
Oui, ça fait 6 mois déjà.
Et vous la voyez souvent?
Non, une fois pour toutes. Le jour du fiancé. Et après, le deuxième jour, la deuxième fois, à la fête. Mariage.
Donc c'est quelqu'un que vous avez choisi?
Non, mais mes tantes, ma grand-tante, m'a fait comme ça.
Mais ça, c'est pas dur de pas choisir sa femme?
Non, non, c'est pas grave. Parce que je sais que son choix, c'est le meilleur. C'est pas le meilleur, c'est un bon choix.
Tiraillé par l'autre monde, Azedine confie plus tard qu'il rêve d'aller à Londres et d'être un rocker. D'autres ont choisi comme refuge le sport. Mais là encore, rien n'est évident. Ces deux jeunes sportifs de haut niveau que nous avons rencontrés dans un meeting durant la campagne électorale préfèrent garder l'anonymat.
Vous savez, pour atteindre un haut niveau ici en Algérie au pays, c'est une tâche très très difficile. Je dirais même impossible. Vous voyez, parce que faute de moyens matériels, techniques et pratiques, la motivation des athlètes s'affaiblit en quelque sorte.
Qu'est-ce qui vous manque concrètement?
Concrètement, c'est, vous savez, c'est le matériel, c'est, on n'a pas où s'entraîner, on ne fait pas des stages, on ne nous paye pas bien, on n'a pas les moyens d'acheter notre propre matériel, vous voyez. C'est le strict minimum, ça, pour un athlète de haut niveau.
Ben, ça, en Algérie, c'est tous... vous ne pouvez pas faire ce que tu veux. Vous êtes toujours attaché, toujours. Et c'est en Algérie, toujours attaché.
Ben, attaché, ça veut dire?
Attaché, ben, nous sommes toujours...
Vous n'êtes pas libre?
Nous sommes libres, mais on ne peut pas faire exactement tout ce qu'on veut.
On ne laisse pas aller jusqu'au bout de nos qualités, de nos capacités. Donc, vous savez, après, la personne, elle lâche prise si on veut et...
Elle démissionne?
Tout à fait, exactement, voilà, elle démissionne, c'est ça le faire.
Dans ce contexte difficile, ceux qui réussissent sont fiers d'eux. C'est le cas de Tourab Mohamed Salah, un jeune de 27 ans. Il est le cofondateur de Sphere Web Services, petite visite guidée de cette entreprise modèle.
C'est le bureau 33, c'est le plus petit bureau de Annaba. Et là, on a commencé.
Petit, ça veut dire quoi?
Eh bien, en termes de superficie, c'est 11,67 mètres carrés. Ici, on fait essentiellement le développement des sites web. C'est notre spécialité. Et aussi, c'est une agence de communication. On fait des retouches d'images, ce qui reste. Moi, j'ai 27 ans. Et l'entreprise, elle a été créée en 2008, février 2008. Nous sommes dans le 14e mois. Quand on a lancé l'entreprise, j'étais avec Abdelaziz, le cofondateur. Et maintenant, nous sommes quatre.
Et comment vous avez eu l'idée de créer une entreprise ?
C'est pas facile. Il faut noter que notre entreprise, elle a été créée. C'est l'entreprise qu'elle a démarrée avec 200 euros. Et maintenant, on a pu réaliser un chiffre d'affaires de 5 millions de dinars.
Diplômé en électromécanique, Salah se forme aujourd'hui au management. Sans une bonne dose de volonté, il aurait baissé les bras, dit-il.
Réellement, c'est un parcours du combattant. Il y a des organismes, il y a des dispositifs d'aide de jeunes, tels que l'ANSEJ, l'ANGEM. Nous, on n'a pas choisi ces formules, bon, tout simplement parce qu'on savait dès le début que ces organismes sont défaillants. Je connais déjà l'expérience de certains collègues qui ont essayé de travailler comme ça. Généralement, ils perdent 2 ans rien que pour avoir le dossier. Nous, on a eu la chance de réussir ici. Mais avant, il faut penser qu'on a eu le courage de démarrer cette entreprise. Il faut avoir du courage. C'est pas facile. Il y a beaucoup de problèmes administratifs, surtout pour des Algériens. L'administration ne fait pas confiance aux jeunes. C'est pour ça qu'on a du mal à avoir des marchés, des grandes entreprises, des entreprises nationales, de l'administration. Parce que les gens ne font pas confiance aux jeunes.
La confiance et le respect pour lutter contre le mépris, hogra, comme on dit ici en Algérie. Ce mépris qui pousse les jeunes à se révolter. Des mots qui reviennent souvent dans les conversations. Traedia Louisa est présidente de SOS Nour, un service d'écoute pour personnes en difficulté qui vient d'ouvrir un projet spécial jeunes dans la ville d'Annaba.
Ils n'acceptent pas toutes ces situations de ne pas être écoutés, de ne pas être respectés, parce qu'ils ont trop retenu. Après, ils explosent. Je pense que c'est un peu aussi dû aux conditions éducatives qui restent quand même très traditionnelles par rapport à... Ils ne supportent plus ce que leur aîné supportait. Vous voyez, c'est là qu'est le problème.
Et comment vous abordez ça? Ça vous inquiète?
Bien sûr que ça nous inquiète. C'est quand même de l'avenir de notre pays qu'il s'agit. C'est un pays qui est à peine indépendant depuis une cinquantaine d'années. Et il est indépendant pour ses propres enfants. Il faudrait quand même que ses enfants en profitent. Ils ont besoin de construire et de se construire. C'est dans la mesure où on les aide à se construire, à y voir clair, qu'ils pourront ensuite peut-être construire leur pays.
Au lieu de construire, certains jeunes Algériens ne pensent qu'à détruire pour se faire entendre. Chlef, Oran, Berriane, les émeutes se sont multipliées cette année dans le pays. Dabouz Mohamed, responsable du bureau local du RCD, un parti d'opposition à Berriane.
Les jeunes de Berriane, je pense qu'ils ne font pas exception du reste de la jeunesse algérienne. Ils vivent un malaise et partout où vous allez, c'est-à-dire quand on n'arrive pas à s'exprimer d'une façon pacifique, structurée, et tout ça, ben, il ne reste que la violence. Donc, provoquer des événements... Ben pour les jeunes, c'est l'occasion de dire il y en a marre de ce système, il y en a marre de cette malvie, il y en a marre, c'est leur façon de s'exprimer. Donc ils n'ont presque aucun espoir. Ils se sentent étouffés. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de logement, il n'y a pas d'avenir. Donc il suffit de provoquer n'importe quels événements, et ben les gens vont casser, vont brûler, voilà, c'est leur façon de dire qu'on est ici.
Entre la nouvelle génération et l'ancienne, il y a un fossé qui se creuse, un ravin, disent même certains. Un écart entre les jeunes adultes et leurs parents, mais pas seulement. À Nice, étudiant en tourisme à Alger.
Ici, on ne donne pas l'opportunité aux jeunes de s'exprimer. Il y a toujours les politiques, c'est toujours le même cercle. Il n'y a pas de changement. Il y a des étudiants en droit qui sortent chaque année. Il n'y a pas des opportunités pour ces gens-là d'intégrer le gouvernement. C'est toujours des clans. Ça fait 40 ans que c'est toujours les mêmes personnes qui sont au pouvoir. c'est pas parfait, mais voilà, faut faire avec, faut être positif.
Ces jeunes qui ont du mal à se reconnaître dans leurs élites ont pourtant été très courtisés durant toute cette campagne électorale. De leur vote, demain, dépendra en grande partie le taux de participation qui est le principal enjeu de cette présidentielle. Portrait d'une jeunesse algérienne, reportage Marie-Pierre Olfan, réalisation Marc Minatel.
Et on retrouve en ligne d'Alger, comme promis, notre envoyé spécial, Marie-Pierre Olfan, bonjour.
Bonjour Nathalie.
Alors ces jeunes, vous le dites, constituent un élément déterminant dans le vote de demain. Est-ce qu'ils accordent encore quelques crédits à leur classe politique? Est-ce qu'ils ont l'intention d'aller voter?
Écoutez, c'est très difficile évidemment de répondre à cette question et de généraliser, mais oui, j'ai rencontré beaucoup de jeunes qui ne vont pas aller voter parce qu'ils sont résignés, parce qu'ils ont l'impression que tout est joué et qu'il n'y a aucun enjeu dans cette élection, ce qui n'est pas totalement faux. Comme leurs parents, on peut dire que les jeunes qui iront voter seront probablement ceux qui ont déjà choisi de reconduire le président Bouteflika. Beaucoup de jeunes ont en fait aujourd'hui l'impression d'être coupés d'une classe politique vieillissante. Le dernier jeune qu'on entendait dans le reportage le disait, une classe politique qui ne se renouvelle pas, d'autant qu'avec l'état d'urgence dans la capitale depuis 92, aucune activité politique n'est autorisée en dehors des activités officielles, ce qui contribue à créer un fossé entre les jeunes et la classe politique de manière générale. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'à la veille de l'élection, pour ces jeunes comme pour leurs parents aussi, la préoccupation principale, eh bien, c'est la cherté de la vie, avec un SMIC à 120 euros et surtout des prix qui ne cessent de grimper. En ce moment, ces jours-ci, on parle beaucoup du prix de la pomme de terre qui a atteint un prix au kilo de 100 dinars, soit 1 euro. Le prix des sardines aussi a grimpé. Donc ici, on est un petit peu aigri, on ne croit plus vraiment à cette politique, on est cynique. On dit même, pour parler des sardines, qu'un Algérien n'a pas les moyens de se payer une sardine aujourd'hui, mais qu'une sardine peut, elle, se payer un Algérien, ce qui est une allusion aux jeunes qui périssent en traversant la Méditerranée.
Vous nous le dites à la fin du reportage, Marie-Pierre, les jeunes ont été très courtisés pendant la campagne. Que leur propose le pouvoir d'Abdelaziz Bouteflika?
Abdelaziz Bouteflika a promis de créer 3 millions d'emplois et de mettre fin à la crise du logement durant son prochain mandat. Les autres candidats aussi ont fait leurs promesses. On prenait un doublement du SMIC, promis une allocation de la dignité, ou alors encore un logement à tous les célibataires qui sont désireux de se marier. Mais ce que certains se demandent, c'est est-ce que ces promesses signifient qu'il y a un véritable intérêt pour la jeunesse derrière, parce que les gens n'y croient pas trop. On a même l'impression parfois que chez les autorités, on ne veut pas aborder de front le problème. Un directeur de campagne du président que j'ai rencontré dans la ville d'Annaba m'expliquait même que le problème des Haraga, ces jeunes qui veulent partir en Europe, ce n'était pas un problème algérien, mais qu'il était uniquement dû à la fermeture des frontières et que l'Algérie avait déjà fait plus que d'autres pays pour la jeunesse, que l'Algérie avait fait beaucoup. Et ça, c'est un discours qui semble quand même en total décalage avec ce qu'on entend dans cette génération là de ceux qui ont 20 ou 30 ans.
En un tout petit mot, Marie-Pierre, quelle impression vous laisse finalement cette jeunesse algérienne après ce reportage ?
Écoutez, ce sont des jeunes en tout cas qui parlent très facilement, qui ont envie de communiquer, qui n'ont pas peur de parler, qui ont vraiment envie qu'on les écoute. Et on sent qu'ils demandent plus que leurs parents, qui eux mettent en avant surtout le retour de la paix après des années de terrorisme. Bien sûr, c'est important pour le pays, mais les jeunes veulent autre chose, veulent qu'on leur ouvre des horizons aujourd'hui, car beaucoup de jeunes Algériens ont de l'ambition.
Merci Marie-Pierre Olfan. On suivra bien sûr avec vous demain le déroulement de ce scrutin. En attendant, rendez-vous sur le site internet d'RFI, www.rfi.fr, pour réentendre ce grand reportage. Demain, nous serons au Rwanda, 15 ans après le génocide. Un grand reportage qui sera signé Catherine Ninin.